C'est Ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique. Oui, il n'est pas 9h30, il est 9h05. On est un petit peu en avance aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je vais vous parler des Toits de Paris, le jeu de Ludovic Maublanc et Christine Alcouf. On retrouvera en fin d'émission Copla pour On y rejoue, on n'y rejoue pas un an après. Et tout de suite, c'est dans le rétro avec Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un jeu un petit peu plus ancien, je crois, de Ludovic Maublanc.
Ouais, carrément, je voulais vous parler d'un jeu de Ludovic Maublanc, alors qui date pas d'hier, un jeu qui date de 2005.
D'accord.
Moi, auquel j'ai beaucoup joué, un jeu de bluff qui s'appelle Cash and Guns.
Ouais.
Alors, Cash and Guns, pour ceux qui ont pu y jouer, c'est une expérience assez marquante. Grosso modo, au niveau de la thématique, c'est Reservoir Dogs de Tarantino.
Ok.
On vient de faire un braquage, on a plein de billets, des pelletés de billets dans tous les sens, et on va devoir se les partager. Et comme on est des gangsters, on va pas faire ça gentiment. Donc, on va avoir des armes à feu pour se braquer, pour se menacer, pour essayer de remporter plus de flouze que les autres joueurs.
D'accord.
Donc déjà, le truc rigolo et marquant dans le jeu, c'est que tu as effectivement des armes à feu dans la boîte. Hein. Tu vas avoir des énormes pistolets, bien évidemment en mousse, hein,
oui,
faux pistolets.
Bon, ça va, alors.
Et l'idée de chaque manche, c'est qu'il va y avoir de l'argent qui est mis au centre de la table. C'est l'argent qu'on va devoir se partager. Et pour ce faire, on va pouvoir menacer les autres joueurs avec nos armes. Donc tous en même temps, on prend nos armes, on fait un compte à rebours et on va menacer quelqu'un, alors vraiment physiquement avec notre arme.
Okay.
Tout le truc drôle du jeu, c'est que notre pistolet n'est peut-être pas chargé. On est peut-être en train de bluffer. Avant de viser quelqu'un, on a tiré une carte qui nous dit si notre arme, il y a une balle dedans ou il n'y a pas de balle. On va quand même bien évidemment avoir une posture menaçante en faisant croire qu'on est bien évidemment avec un pistolet chargé. Et les joueurs vont avoir la possibilité de se coucher. Parce que ceux qui ne se couchent pas, qui sont visés par des armes à feu, vont prendre des blessures qui entraînent des grosses pénalités. Ceux qui sont debout après tout ça vont se partager le pactole. Donc ceux qui ne se sont pas couchés honteusement, et ceux qui n'ont pas été blessés. Donc on essaie de se répartir tout ça après. C'est une expérience qui est vraiment très très fun. En plus, ça marche bien, le côté bluff est assez excellent, donc on est vraiment dans ce que moi j'appelle, alors désolé, j'ai pas de mot français pour ça, mais du guessing, et vraiment essayer de se mettre dans la tête des autres joueurs, et puis aussi un aspect de prise de risque, hein, parce que bon, c'est vrai que quand il y a trois personnes qui te menacent, tu te dis bon, ça vaut peut-être pas le coup de rester là pour emporter le pactole.
Alors moi, ça me dit quelque chose, ce jeu-là, Jonathan, mais j'y ai joué, moi, avec des baguettes magiques.
Ben oui, effectivement. Alors, Cash and Gun, c'est un jeu qui se faisait plus trop et qui est revenu, je me mélange, je ne sais plus si c'était
l'année dernière
ou l'année d'avant,
l'année dernière.
Alors, dans une thématique qui n'a plus rien à voir, un film des gangsters de Tarantino et les armes à feu, on sort maintenant nos baguettes magiques en plastique et on est dans l'univers d'Harry Potter. Donc, il s'agit de Stupéfix, la réédition de Cash and Guns. Alors, au premier abord, ça peut faire un peu bizarre de passer des gangsters aux petits sorciers écoliers, mais ça s'y prête plutôt pas mal. Alors, moi, je connais mal l'univers, mais je m'y suis bien cru, avec nos baguettes, à menacer, à jouer un petit peu quand même. Je fais des sorts pour stupéfixer les autres joueurs. Et la très très bonne idée du jeu, c'est que maintenant, on va pouvoir jouer en équipe, ce qui est un petit peu trop rare. Donc, quand on est assez nombreux, on va créer des binômes, hein, deux joueurs qui seront en lice pour Serpentard, deux joueurs qui seront pour Gryffondor, etc.
Ouais.
Et du coup, ça crée un petit peu de communication. En plus de ça, maintenant, c'est plus de l'argent, parce que Harry Potter, je crois qu'il s'en fout un peu de l'argent.
Oui.
C'est plutôt des points pour les maisons qu'on va essayer de gagner.
C'est ça.
Et aussi des cartes à effet. Donc, ça apporte un petit peu plus de variété par rapport à un Cash and Guns. Donc, moi, super édition. Hein, quand j'y rejoue, j'étais très content. J'ai retrouvé tout le plaisir de ce vieux jeu. On a beaucoup, beaucoup rigolé.
Ouais, et puis pour les fans d'Harry Potter, en plus, toutes les baguettes sont différentes.
Ah ouais, alors là, je suis pas fan d'Harry Potter, alors j'ai moins fait gaffe à ça, mais effectivement, dans la boîte, les baguettes sont différentes. Alors, je sais pas si elles font référence à des baguettes vraiment de l'univers d'Harry Potter ou pas. Mais en tout cas, on retrouve tous les personnages iconiques,
ouais.
Les maisons,
c'est
le système
super,
de
super
points.
Bien fait, le système de vote où vraiment tu utilises la boîte pour voter, quoi. Hein,
au niveau du matériel, c'est vrai que c'est très chouette. T'as la boîte sert d'urne dans laquelle on va pouvoir mettre nos points, et quand on les met, on va pouvoir, je sais plus comment elle s'appelle, la professeure qui fait 40 points pour Serpentard, etc. ça fout bien l'ambiance, ça marche bien.
Très bien, merci beaucoup Jonathan, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci Mathieu, belle
fin de
semaine. Salut.
C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Connaissez-vous le gang d'épis? Je ne vous parle pas d'oiseaux, même s'il faut lever vos yeux vers le ciel pour les apercevoir. C'est quand la nuit tombe qu'elles vont apparaître et que les épis passent de toit en toit sur les immeubles de la capitale. Elles passent par les fenêtres, essayent de se faufiler dans les plus beaux appartements de Paris pour voler des œuvres d'art, des bijoux et des objets de très grande valeur. Plus une pie aura une collection d'un certain type d'objet, et plus elle sera appréciée du gang. Oui, mais attention, car il ne faudra pas alerter l'inspecteur Rossignol et avoir une prise de bec avec lui, hein, sinon vous perdez tout votre butin. Voici Les Toits de Paris, un jeu de Christine Alcouf et Ludovic Maublanc que nous propose Kif Edition. Alors Les Toits de Paris, c'est un jeu de stop ou encore. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Le problème, c'est que l'on en veut toujours plus. Au niveau de la mise en place, vous allez placer le plateau de 7 emplacements au centre de la table, les jetons récompenses au-dessus, il y aura 3 par type de butin, vous posez 15 cartes butin dans la réserve à droite du plateau, et à gauche, eh bien c'est la pioche. Chaque joueur récupère sa carte personnage. Enfin, n'oubliez pas de mettre le jeton de l'inspecteur Rossignol au bout du plateau. Voilà, bah vous êtes prêt à jouer, votre but hein, est de faire des collections. Mais alors comment on joue? Bah il y a 2 phases, le vol et le partage. La première c'est le vol. À votre tour, vous allez révéler des cartes butin sur le plateau. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Vous révélez la première carte, vous la posez sur l'emplacement 1, puis une deuxième carte sur l'emplacement 2 et ainsi de suite. Regardez bien la carte que vous révélez car elle va pouvoir faire avancer de 1 à 3 cases l'inspecteur Rossignol. Alors si jamais l'inspecteur arrive sur une carte butin, là comme on dit, hein, vous avez été pris la main dans le sac, et lors du partage, eh bien vous n'aurez rien du tout. La carte et les suivantes sont défaussées. En revanche, si l'inspecteur arrive à la limite de la dernière carte butin révélée, c'est ce qu'on appelle le coup d'éclat. Vous avez réussi votre vol sans vous faire prendre. Lors de la phase de partage, eh bien vous pourrez prendre autant de cartes que vous le souhaitez et n'en laisser aucune aux autres. Bon, ok. Mais si vous avez décidé de vous arrêter avant que ça soit trop tard, lors du partage, vous pourrez prendre un nombre de cartes précis indiqué sur le plateau. Puis, à tour de rôle, les autres pies pourront prendre une carte de leur choix, et s'il reste des cartes et que ça revient à vous, eh bien vous pouvez en prendre une supplémentaire. En prenant des cartes, vous allez former ce qu'on appelle des collections. Le joueur qui a le plus de cartes butin dans sa collection remporte le jeton correspondant de plus forte valeur en fin de partie. Mais attention à ne pas trop en vouloir car certaines collections sont sous surveillance. Sur les cartes, ils ont une petite cloche et à partir de 3 cloches, eh bien c'est la cata, hein, l'alarme se déclenche et vous perdez toute la collection. On va avoir tendance à laisser certaines cartes aux autres, hein, surtout quand on joue à 2, c'est très tendu. Tiens, il y a 3 cartes, j'en prends 2, tu récupères la dernière. La rouge avec la petite cloche qui va te faire perdre toute ta collection rouge. Certaines cartes ont des effets, comme prendre la première carte de la réserve ou encore la plume hein, qui permet de gagner des points de prestige supplémentaires pour le joueur qui en aura le plus. La partie va prendre fin dès qu'une des pies révèle la dernière carte de la pioche. Pour finir le tour, on continuera d'en prendre dans la réserve. On regarde toutes les collections par couleur et on attribue les points de prestige à celui qui a le plus de cartes butin. Les Toits de Paris, c'est un bon petit jeu de stop ou encore, et on peut le dire, hein, aussi d'enfoiré. Bravo à Christine Alcouf pour son premier jeu en tant qu'auteur et qui accompagne Ludovic Maublanc. Christine que l'on retrouve bien entendu aussi en tant qu'illustratrice du jeu. Voilà, donc ça s'appelle Les Toits de Paris et c'est sorti chez Kif Edition.
C'est ludique, des jeux et des hits. C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Alors l'an dernier, je vous ai présenté des jeux, certainement, mais j'ai pas trop de souvenirs. Et grâce à Copla, le jeudi, eh bien mes souvenirs reviennent. Bonjour Copla.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors,
bonjour Matt.
Avec toi, est-ce qu'on y rejoue, est-ce qu'on n'y rejoue pas? C'est la question du jeudi.
Tout à fait. Alors l'année passée, du coup Matt, semaine 42... Tu nous parlais de, pour petit rappel, Flamecraft,
ouais.
L'année des 5 empereurs,
ouais.
Mao, la ferme en folie, Rainforest,
ouais.
Snakes et Little Secret. Et alors honnêtement, dans cette liste, moi, il n'y a qu'un seul titre auquel j'ai pu jouer.
D'accord.
Et j'ai donc décidé évidemment de vous parler de celui-ci. Il s'agit de Flamecraft,
ouais.
Qui est un jeu de Manny Vega, illustré par Sandara Tang et édité par Lucky Duck Games.
Mm-hmm.
Alors, dans Flamecraft, vous jouez le rôle de gardien des flammes, rassemblant des objets, lançant des enchantements pour améliorer les boutiques de votre ville et plaçant des petits dragons. Alors, niveau mécanique, on est plutôt sur du classique, principalement de la gestion de ressources et du placement d'ouvriers. Alors ici, c'est même plutôt du déplacement, puisqu'à votre tour, vous prenez votre pion que vous déplacez vers un autre emplacement d'action. Alors attention, vous devrez parfois vous acquitter d'un éventuel surcoût si cet emplacement est déjà occupé par quelqu'un d'autre. Et là aussi, on est sur quelque chose de connu. On peut par exemple citer Dice Forge qui,
ouais.
qui a également cette petite mécanique. Alors Flamecraft, visuellement, on ne va pas se mentir, c'est Waouh,
je suis d'accord.
C'est un déluge de couleurs, une direction artistique impeccable, un univers médialo-fantastique avec ses petits dragons indéniablement mignons qui travaillent tous pour leur petit village et avec chacun leur spécialité. Alors non, je ne parle pas des Schtroumpfs, mais on est toujours dans Flamecraft. C'est d'une légèreté et d'un charme fou. Alors, tout comme Project L dont je vous parlais la semaine passée, Flamecraft, c'est à l'origine un Kickstarter. Et attention, pour le coup, les chiffres sont bien plus impressionnants puisque ce sont presque 30 000 contributeurs qui ont soulevé plus de 2 millions de dollars. Oui, désolé, je n'arrive pas à prononcer ce mot différemment. Un véritable succès mondial d'ailleurs puisque le jeu fut traduit dès sa première production en pas moins de 12 langues.
Ouais, et c'est pas mal.
Alors, on parle de chiffres, eh bien, parlons de chiffres, hein, allons-y. 40€ pour la version classique, jusqu'ici, rien d'étonnant, vous conviendrez. En revanche, l'édition Deluxe, elle s'élève à 90€ en moyenne.
C'est la Deluxe.
80, la Deluxe, tout à fait, oui. Donc, 80 lors du Kickstarter, mais n'oublions pas qu'il fallait dans tous les cas rajouter les frais de livraison, voire des frais de douane, etc. Donc, bon, 90€, ça nous fait tout de même une différence de 50€ pour uniquement un upgrade de matériel.
Oui, c'est vrai.
Alors, on parle de, en effet, 6 sublimes figurines de petits dragons que vous pouvez d'ailleurs peindre. Enfin, à condition que vous ayez le matériel ou que vous l'achetiez, hein, vous n'êtes plus à ça près. De jolis jetons ressources en bois plutôt qu'en carton, de très lourdes pièces en métal, des inserts de la marque Game 13 pour pouvoir ranger tout ça, tout bien, tout joli. Et bien, c'est tout. Alors oui, à ce prix-là, on comprend bien mieux l'étymologie du mot de luxe, hein, de luxe. Et je ne vois clairement pas pourquoi dans Flamecraft, on a supprimé cet espace. Donc, bon, pour revenir à notre sujet, malgré une certaine lenteur qui a tendance à s'installer de plus en plus entre chaque tour et à mesure que la partie avance, la durée du jeu reste raisonnable. C'est un jeu qui tourne correctement et qui plaira à un panel de joueurs et de joueuses assez large. Vous trouverez d'ailleurs pléthore d'excellentes critiques sur les internets. En même temps, à ce prix-là, il y a l'intérêt qu'il soit bien, si je puis me permettre.
Sachant aussi qu'un truc, Copla, c'est que même dans la version qui n'est pas de luxe, on a le tapis en néoprène.
Le tapis néoprène. Ah oui, ça, je ne peux pas lui retirer, en effet. Heureusement, on a un magnifique tapis néoprène. Donc, pourtant, totalement emballé par sa mignonitude. Hein. Pour ma part, son classicisme m'a personnellement un petit peu laissé sur ma faim. Et je me retrouve, pardonnez-moi l'expression, mais on va dire le cul entre deux chaises, puisque Flamecraft, il est ni bon, ni mauvais. Et alors à la question, un an après, est-ce qu'on y rejoue ou pas? Pour ma part, malheureusement, c'est encore un non. En revanche, je suis persuadée que si vous avez claqué 80, voire 90 boules pour lui, la culpabilité de ne pas le sortir souvent doit vous guetter. Bon, à 40€, en revanche, allez, ok, ça passe, parce que de toute façon, c'est incontestable. On a tous et toutes bien du mal à résister aux petits chatons, en l'occurrence, pour Flamecraft, aux petits dragons.
Aux petits dragons, mais oui, c'est tout. Ça marche très bien, d'ailleurs, avec les jeunes enfants à partir de 8 ans.
Oui. Complètement, c'est pour ça que j'ai une cible relativement large hein, qui est quand même touchée par Flamecraft. Donc voilà, c'est tout pour moi.
Eh ben, merci beaucoup, Copla, et on se retrouve jeudi
merci,
prochain.
Merci, avec grand plaisir.
Salut, bonne journée.